Le dimanche de Pâques. Alors, que de plus merveilleux que de méditer, penser, parler, réfléchir sur, oui, la mort de Jésus-Christ, mais surtout sa résurrection. Jésus est réellement mort. Pas comme certains prétendent qu'on aurait mis quelqu'un d'autre à sa place, pas qu'il se soit évanoui et que la fraîcheur de la tombe l'aurait réveillé. Non, Jésus est réellement mort. Son cœur s'est arrêté de battre. Son esprit, séparé du corps. Et 3 jours plus tard, comme c'est indiqué sur le mur, là, selon les prophéties, selon ce que Dieu avait décidé et mis en place avant même de créer le monde, avant même que Adam et Ève pêchent, Dieu avait prévu que par sa puissance, Jésus-Christ serait ressuscité. Et grâce à cela, le salut est accompli. Et de pouvoir penser à cela, mettre l'accent là-dessus, dans ce jour particulier, mais aussi tous les jours de l'année. Quelle grâce formidable de la part de Dieu. Mais quelque part, on peut se dire, Jésus est mort, il est ressuscité il y a 2000 ans. Moi, je n'étais pas là. Vous non plus d'ailleurs. Et aujourd'hui, 2019, dans ma vie, c'est formidable de savoir tout cela, d'avoir ces données, cet enseignement qui est tout à fait vrai. Mais ma vie aujourd'hui, et alors? Si je suis enfant de Dieu, si je me dis sauvé, si je dis que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, et alors? Quel impact, quel changement, quelle transformation? Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Quelle transformation aujourd'hui, 2019? Et la toute première question qu'on peut se poser, c'est y a eu-t-il dans notre vie un moment où cette transformation est intervenue? Je vous pose la question directe. Est-ce que vous pouvez identifier dans votre vie le moment, peut-être pas la date, peut-être pas l'heure, mais au moins vous savez, à un moment donné, vous avez accepté Christ comme votre sauveur? Est-ce que vous pouvez identifier ce moment? Moi, je le peux. Et je prie de tout mon cœur que vous aussi. Mais si on ne peut pas identifier ce moment, il faut déjà régler ça. Il faut déjà être sûr qu'on est sauvé. Mais si on peut identifier ce moment, gloire à Dieu. Mais maintenant, est-ce que à travers notre vie, nous pouvons identifier d'autres transformations, d'autres avancements? Et j'aimerais livrer pour votre réflexion un ensemble de domaines dans lesquels il doit, pas peut-être oui ou si ça nous plaît, mais non, qu'il doit avoir une transformation dans notre vie si nous disons que nous sommes sauvés. Et ça, sur la base de la résurrection de Jésus. Alors, allez avec moi dans un passage que certains ont appris ce matin, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, c'est le premier jour de la semaine selon le verset 2. Plusieurs femmes se rendent au sépulcre. Et au verset 5, c'était ces versets qui avaient été appris ce matin par plusieurs, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, d'autres passages vont nous montrer que c'est un ange, et elles furent épouvantées. Ce n'est pas juste une petite frayeur, là, d'être surpris de voir quelqu'un. Non, là, elles étaient épouvantées. La peur les a saisies. Et cela nous arrive à tous d'avoir peur. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais lorsque j'étais enfant, j'étais extrêmement peureux. J'avais peur de tout. Et après, certains se disent, mais comment se fait-il que tu pars tout seul en France, tu apprends une autre langue, tu refais ta vie là-bas? Bah, c'est la grâce de Dieu, je vous l'assure. Mais ici, ces femmes qui s'attendaient dans un premier temps de devoir rouler la pierre, elles se sont dit, mais comment on va faire? S'attendaient à voir le corps de Christ. Et là, elles ne voient pas le corps de Christ, mais à la place, elles voient ce jeune homme. D'autres récits nous disent qu'il y en avait deux, mais là, on parle de ce jeune homme qui est là, un ange. Elles ont peur. Et c'est presque une réaction unanime dans la Bible, lorsque les gens voient des anges, c'est la peur. Parce que ces êtres angéliques, ces créatures célestes inspirent la peur. Leur puissance, leur beauté, la lumière qui est là. Et tout comme ces femmes, il arrive dans notre vie d'avoir peur, n'est-ce pas? Et parfois, pas juste une petite peur. Parfois, nous sommes vraiment effrayés, épouvantés, cette peur qui nous bloque, n'est-ce pas? Et le verset 6, cet ange, des paroles que par la suite, Jésus va reprendre dans Jean 20 avec ses disciples. Ne vous épouvantez pas. Aussi, une réaction presque unanime de la part de ces créatures angéliques, mais aussi de Jésus lui-même face à des personnes. N'ayez pas peur. Ne vous épouvantez pas. N'ayez pas de frayeur. Et on va dire, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? N'importe qui peut dire, n'ayez pas peur. Est-ce que c'est pour autant qu'on n'a pas peur? Moi, je peux être devant un grand vide et avoir peur des hauteurs et peur de tomber. Si quelqu'un me dit de ne pas avoir peur, ça ne change pas grand-chose, n'est-ce pas? T'es gentil, toi. J'ai peur. Cet ange leur dit, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. Mais pourquoi? Est-ce que ce sont simplement des paroles lancées comme ça, juste pour réconforter un tout petit peu, pour les calmer un peu? Non. Cet ange leur dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et parce que Jésus est ressuscité, ça montre sa puissance. Ça montre son contrôle. Et si Jésus, il a toute cette puissance, si Jésus, il a tout ce contrôle, comme dit le psalmiste, que peuvent me faire les hommes? De quoi devrais-je avoir peur? Parce que Jésus est ressuscité. La chose qui vous fait le plus peur dans la vie, peut-être le noir. Hein? Mais vous prenez tout ce que vous voulez. Pensez dans votre esprit, sans vous effrayer, mais pensez dans votre esprit la chose qui vous fait le plus peur. Et à ce moment-là, de dire, parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est vivant aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir peur de ça. Je peux surmonter cette peur, pas simplement avec quelques paroles réconfortantes qui vont être des paroles dans l'air et tout, non, mais sur la vérité que Jésus est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, il est avec moi. Si je suis enfant de Dieu, Jésus n'est pas resté là quelque part dans le ciel, dans l'univers, non, il est en moi. Et est-ce que Jésus a peur de quoi que ce soit? Non. Alors si Jésus est en moi, et j'y réfléchis, et je m'inspire de cette vérité, plus besoin d'avoir peur devant qui que ce soit. Vous savez, il y a des personnes méchantes dans la vie. Hein? Il y a des personnes, parfois on a peur. Si quelqu'un venait vers moi avec un couteau, je vous prie de croire que moi, j'aurais peur. Si on tire un pistolet, moi, je ne vais pas rigoler. Hein? Sauf si c'est en plastique, mais bon, ça c'est autre chose. Non, je vais avoir peur, mais je ne vais pas rester dans cette peur. Pourquoi? Parce que Jésus est avec moi et rien ne lui fait peur. Cet ange, devant ces femmes toutes confondues, effrayées, épouvantées, il leur dit, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. Et il continue dans ce verset, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, mais il est ressuscité. Il n'est point ici. Il est parti. Et ainsi, il a la capacité de nous réconforter et d'enlever toute peur de notre vie. Alors, pendant cette semaine qui va arriver, peut-être même cet après-midi, il y aura des choses qui vont nous faire peur, qui vont nous épouvanter peut-être. Et à ce moment-là, nous aurons le choix. Rester dans cette peur et de dire « je n'en peux plus, je ne peux rien face à cela, je reste bloqué avec ma peur » ou bien « certes, Seigneur, j'ai peur, mais je vais me confier en toi. Je vais demander ton aide face à cette peur. » Cette peur, elle ne sera peut-être pas la même pour chacun de nous. Mais nous allons tous avoir peur à des degrés différents. Et lorsque nous l'avons, pensons, Jésus est ressuscité. Il prend ma peur, il l'enlève. Il peut m'aider à surmonter cela. Donc, il y a la peur. Mais allez avec moi dans Jean chapitre 20, puisque la peur, par moment, conduit à ce qu'on appelle l'angoisse. La peur peut être momentanée, durer un peu de temps. Mais l'angoisse, ça dure dans le temps. Et dans Jean chapitre 20, verset 19. Si vous y êtes, Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, donc on est toujours ce même jour, ce dimanche de la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, pourquoi ? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ici, les disciples sont dans l'angoisse. Pourquoi ? On comprend bien. Ils venaient de mettre à mort Jésus. Les disciples suivaient Jésus. Donc, ils se sont dit, si eux, ils ont fait cela à Jésus, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous ? Nous qui l'avons suivi, Pierre lui-même, il avait renié, n'est-ce pas ? Et du coup, ils se disent, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant à nous ? Alors, ils rentrent chez eux dans cette chambre haute. Certains pensent peut-être que c'était la même chambre haute où a eu lieu la dernière Pâque. Possible, mais on n'est pas sûr. Ils ferment la porte à clé. Ils se barricadent un peu à l'intérieur. Et ils sont dans la crainte. Et ils sont dans l'angoisse. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qu'eux, ils vont nous faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? On se barricade là, à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et imaginez-vous Jésus qui se présente au milieu d'eux. Alors, imaginez-vous cela. Là, on est dans une pièce fermée à clé, et quelqu'un, tout d'un coup, sans passer par les portes, sans passer par les fenêtres, fait son apparition, juste comme ça. Alors, là, moi, j'aurais eu peur. Je serais dans l'angoisse, je dirais, mais c'est un esprit, c'est un fantôme, quand même. Qu'est-ce qui va arriver là ? Et on comprend que Jésus leur dit, la paix soit avec vous. L'angoisse. Pourquoi l'angoisse ? Parce qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas dans la vie, n'est-ce pas ? Parfois, les gens, surtout des inconvertis, ils font des choses, ils disent des choses, et c'est totalement illogique. Vous savez, aux États-Unis, les œufs des aigles sont protégés par des lois avec des peine, donc si on les casse, si on leur fait quelque chose, des œufs, des aigles, si on les casse ou on leur fait quoi que ce soit, il y a une peine de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et ils disent, ça c'est logique, animal protégé, on va protéger les œufs et tout. Et ils se permettent en même temps de faire passer les enfants par l'avortement. Et ça, ça ne leur pose aucun souci. Alors, essayez de trouver la logique là-dedans. Et là, on se dit, mais c'est complètement absurde. Aussi, vous savez, ils font ces recherches sur Mars. Ils disent, bah, on aurait trouvé des traces d'eau, on aurait trouvé éventuellement les choses qui permettraient la vie, et c'est merveilleux, voilà. Et oui, sur le plan de la science, bah, pourquoi pas, c'est assez intéressant et tout. Mais ils mettent tous ces efforts pour trouver ce qui semble être la vie là-haut, et ils vont dire, ça c'est de la vie. Mais ce qui grandit dans le ventre d'une femme, ça c'est pas la vie et on peut en faire ce qu'on veut. Là encore, cherchez la logique, cherchez l'erreur. Et les gens, ils font les choses complètement illogiques, incompréhensibles, et ont peut-être dans l'angoisse en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? S'ils se permettent de faire cela à d'autres, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire face au gouvernement, face aux autorités? Moi, je n'y peux rien. Et nous pouvons tomber dans l'angoisse, dans les tracas, vraiment se faire des soucis et des nœuds à l'estomac en disant, mais je ne m'en sortirai pas. Et à ce moment-là, de se souvenir que Jésus est ressuscité et encore une fois qu'il est avec nous. Et c'est lui qui apporte sa paix. C'est ce qu'il va dire plus loin dans ce passage. Je vous donne ma paix. Et lorsque Jésus donne sa paix, comme il dit, ce n'est pas comme le monde la donne. Non, sa paix, elle est réelle, elle est durable et elle est efficace. C'est-à-dire, elle agit vraiment. Alors l'angoisse, si nous avons accepté Christ comme notre sauveur, si nous avons été transformés par la nouvelle naissance, l'angoisse ne doit pas faire partie de notre vie. Certes, face à certaines situations, on peut commencer à être un peu angoissé, même, comme on a dit, avoir peur face à des situations, mais un enfant de Dieu ne devrait jamais rester dans ses sentiments. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alors, la peur, l'angoisse, on les écarte. Mais il y a également une autre chose, un autre sentiment, quelque chose qui pourrait venir dans notre vie, qui nous affecte tous, soyons honnêtes, vous comme moi, c'est l'incertitude. L'incertitude, elle est bien réelle dans notre vie, n'est-ce pas? On se lève le matin, et nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous faisons des projets, gloire à Dieu. Mais nous ne savons pas ce qui va arriver ce jour, ou demain, ou le mois prochain, à la fin de l'année, l'année prochaine, dans 5 ans. Lorsque vous réfléchissez, il y a 5 ans en arrière, est-ce que vous auriez pu penser que vous serez là où vous êtes aujourd'hui? Moi, non. Il y a 15 ans, lorsque je suis venu en France, là, je peux vous garantir que j'étais loin de penser que je serais là où je suis aujourd'hui. Et Dieu a fait des choses tellement au-delà de mes attentes. Gloire à Dieu. Mais nous ne prévoyons pas tout. Il y a de l'incertitude dans notre vie. Et quelque part, c'est normal. Parce que ce monde, il est incertain. Déjà, le climat, il est incertain. Il paraît que ça va de mal en pis. Que tout est déréglé et les choses auxquelles on pouvait s'attendre dans le passé, ben, les saisons, les cycles et tout, tout est dérangé et donc plus de certitude à ce niveau-là. Alors, en ce qui concerne les banques, alors encore moins de certitude. En ce qui concerne les décisions des gouvernements, encore l'incertitude. est-ce qu'ils vont faire ceci, est-ce qu'ils ne vont pas faire ça, ils prennent une décision, ensuite ils reviennent dessus, et ça nous affecte dans notre vie. Et puis, par-dessus tout cela, il y a l'incertitude de notre propre cœur, ce qui est à l'intérieur de nous. Comme Paul dit, les choses que je veux, je ne les fais pas. Et les choses que je ne veux pas, je les fais. Il y a l'incertitude dans notre propre vie. Il y a l'incertitude dans la santé. On pourrait avoir un accident. On pourrait être comme le frère Boada, qui, à mon avis, ne se doutait de rien. Jeudi d'il y a deux semaines, lorsqu'il s'est levé le matin, il a fait sa vie tranquille comme d'habitude, va à l'église pour étudier, il ouvre sa Bible, et là, crise cardiaque, il entre dans la présence du Seigneur. Il s'y attendait pas, incertitude. Sa famille s'y attendait pas non plus, son église. Quel choc! Qu'est-ce qui les aide dans ces moments-là? C'est la certitude de savoir que Jésus gère toutes choses. Il contrôle. Et il contrôle parce qu'il a eu la victoire sur la mort. Dans un monde incertain, instable, quel est le roc sur lequel nous pouvons tenir? C'est Jésus. Non pas Jésus dans le tombeau, non pas Jésus resté enterré quelque part, non pas sur un mythe, non pas sur une légende, une histoire inventée, non. Sur la vérité absolue que Jésus est vivant aujourd'hui. Et c'est sa vie qui se manifeste en moi, si je suis son enfant, qui me permet d'avoir la certitude aujourd'hui. La certitude de passer un jour l'éternité avec lui au ciel, mais la certitude aujourd'hui qu'il s'occupera de moi, qu'il va pourvoir, qu'il va diriger, qu'il va me protéger. D'où vient la certitude des chrétiens dans ces domaines? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, aucune certitude. Aucune possibilité d'avoir une certitude quelconque. Impossible. Et comme Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, nous serions les plus malheureux des hommes. Aucun sens à la vie. Mais Jésus est ressuscité. Et par cela, plus besoin d'avoir peur. Non. Plus besoin d'être dans l'angoisse. Plus besoin d'être dans l'incertitude. Mais vous allez me dire, mais Robert, je ressens peut-être ces choses à certains moments. Et moi, je m'associe à vous par moments. Je suis dans l'incertitude. Je demande à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision prendre? Où aller? Où consacrer mon temps? Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Et parfois, nous sommes dans l'incertitude. Et que faire dans ces moments? Parce que ça, c'est une réalité. Il ne faut pas nier cette réalité. Non, parfois, à cause des circonstances de la vie, l'incertitude vient. Mais lorsqu'elle vient, c'est ça le moment déterminant. C'est ça qui peut faire tout basculer. Est-ce que je reste dans l'incertitude? Est-ce que je me focalise sur mes propres efforts et ma propre sagesse et ce que moi je peux faire par moi-même? Ou est-ce que je retourne sur la vérité fondamentale que Jésus est avec moi et parce qu'il m'aime et parce que je suis son enfant, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, il va me diriger, il va me protéger, il va pourvoir. Les disciples dans la chambre haute, ici, dans Jean 20, ne savaient pas ce qui allait se passer le lendemain, ne savaient pas ce qui allait se passer dans les 40 jours à venir où Jésus serait avec eux, ne savaient même pas qu'au bout des 40 jours, Jésus serait relevé au ciel, ne savaient pas tout ce que Dieu allait accomplir à travers eux dans le livre des Actes, dans le début de l'Église. Par contre, une fois que Jésus se révèle à eux, et peuvent être certaines d'une chose. Jésus est là. Et ça change tout. Comme Jésus avait guéri cet homme aveugle dans les évangiles, qu'est-ce que cet homme va dire? Alors qu'on l'interroge, les chefs religieux disent, mais est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est lui? Ben, c'est pas possible, cet homme, il a fait ça un jour de sabbat, enfin voilà, il se pose toutes sortes de questions. Et finalement, après avoir été interrogé à plusieurs reprises, cet homme dit, que ce soit un homme bien, que ce soit un malfaiteur, j'en sais rien. Toutes vos questions, ça ne m'intéresse pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Une chose. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses que nous ne contrôlons pas. Tellement de choses que nous ne sommes pas appelés à contrôler. Mais sur une chose, nous pouvons nous appuyer. Une chose que nous contrôlons, c'est notre confiance que Jésus gère tout. Et parce que tout est entre ses mains, nous pouvons être en confiance. Nous pouvons avoir la certitude, cette espérance, cette assurance. Alors, est-ce que nous sommes dans la peur? Est-ce que nous sommes dans l'angoisse? Est-ce que nous sommes dans l'incertitude? C'est probablement parce que nous avons détourné nos yeux, notre attention de Jésus ressuscité. Et à mon avis, il n'y aurait pas de meilleur moment de refocaliser ses yeux qu'en ce jour. En cette période de Pâques, Jésus est ressuscité et il nous aide à tout surmonter. Depuis votre conversion, si vous êtes sauvé, depuis que vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, est-ce que vous avez plus de certitude aujourd'hui qu'à cette époque-là? Est-ce que vous êtes moins dans l'angoisse? Est-ce que vous avez plus d'assurance? Est-ce que vous avez moins de peur que lorsque vous avez accepté Christ? Si la réponse est non, encore une fois, c'est sûrement parce que nous n'avons pas mis Jésus-Christ ressuscité au centre. Alors Jean, celui qui nous a écrit l'évangile, mais qui a aussi écrit trois épîtres, a manifestement été bouleversé par la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il en parle assez souvent. Et dans sa première épître, je vous invite à trouver cela avec moi, Jean va relever quelque chose, encore un élément de cette transformation. Si on a été transformé par la résurrection de Jésus-Christ, bah plus de peur, plus d'angoisse, plus d'incertitude. Mais également, Jean va mettre l'accent sur quelque chose qui nous touche tous. La première épître de Jean, chapitre 3. Jean va relever beaucoup de choses dans cette épître, mais je veux cibler tout simplement verset 14. Nous savons. Assurance. Une chose qu'on sait. Alors, je crois que c'est presque 8 fois dans cet épître, il va dire, nous savons, nous connaissons. Donc, des certitudes. Nous savons que nous sommes passés de la mort. Donc ça, c'était chacun de nous. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés séparés de Dieu. Nous étions morts spirituellement dans nos péchés, nos offenses. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors c'est quoi ça? Ben, ça c'est la résurrection. Sur la base de Jésus-Christ, nous sommes aussi ressuscités. Ces versets dans Romains 6 que j'ai lu tout à l'heure. Ben, nous participons, oui, à la mort de Jésus-Christ, mais aussi à sa résurrection. Gloire à Dieu. Et Jean dit, nous savons. Il y a des preuves, c'est certain, nous sommes passés de la mort à la vie. Comment est-ce qu'on sait? Si vous dites à quelqu'un, je suis passé spirituellement de la mort à la vie, et cette personne dit, ah bon? Bah, comment vous le savez? Montrez-moi. J'en dis parce que nous aimons les frères. Et là, on réfléchit un peu et on se dit, aïe. Est-ce que les gens voient ça dans ma vie? Est-ce que je peux prouver aux autres que je suis passé de la mort à la vie parce que j'aime mes frères et sœurs en Christ? De quoi réfléchir, de quoi méditer, je vous le garantis. Mais l'amour, de dire bah, « j'aime mes frères et sœurs en Christ bah, », ça c'est bien. Mais n'importe qui peut dire ça. Hein. Les paroles, bah, malheureusement, surtout de notre époque, ça ne vaut pas grand-chose. Les gens peuvent dire tout et n'importe quoi. Et ils le font. Nous aimons les frères. Comment est-ce qu'on manifeste cela? Bah, tout d'abord, par la prière. Si vous dites que vous aimez quelqu'un, mais que vous ne priez pas pour cette personne, bah, arrêtez de dire que vous l'aimez. Soyez honnête. Si on dit qu'on aime quelqu'un et on ne prie pas pour cette personne, on est malhonnête, quelque part. Alors, soit on commence à prier pour la personne, ou bien on arrête de dire qu'on l'aime. Et de loin, le meilleur serait de commencer à prier. Mais ici, j'en dis, nous aimons les frères. Et il ne met rien derrière. Pas simplement les frères qui nous font du bien, pas simplement les frères que nous apprécions, qui sont comme nous, avec lesquels nous avons quelques affinités. Non, nous aimons les frères, point. Et cela veut dire que, devant Dieu, je peux manifester, prouver que je suis passé de la mort à la vie parce que j'aime mes frères et sœurs. Ça veut dire que je prie pour eux. Est-ce que vous pouvez prendre la liste de tous les gens sauvés que vous connaissez et prier pour eux réellement? Est-ce que vous pouvez faire cela? Je prie que oui. Si vous ne le pouvez pas, voilà du progrès que vous pouvez faire dans votre vie. Mais comment est-ce qu'aussi on peut prouver son amour? Ben, c'est aussi en passant du temps ensemble. Dire qu'on aime quelqu'un mais qu'on ne passe jamais du temps avec cette personne, ben, drôle d'amour. N'est-ce pas? Voilà pourquoi les réunions organisées de l'Église, par exemple le dimanche matin, le mardi soir, voilà pourquoi c'est tellement important. Pas simplement de faire acte de présence, d'avoir son nom sur une liste quelque part et dire « voilà, j'étais présent ». Non, c'est parce que nous sommes ensemble en tant que frères et sœurs de l'Église. Et si nous négligeons ces réunions délibérément, ben, on commence à remettre en doute que nous sommes passés de la mort à la vie. Et ça peut surprendre, ça peut choquer, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit, vous prouvez que vous êtes passé de la mort à la vie parce que vous aimez les frères. Et aimer, ça veut dire on passe du temps ensemble. Oui, entre les quatre murs de ce bâtiment, mais aussi bah, les uns avec les autres. On s'appelle, on se rend visite. On partage des difficultés, on partage les joies. Mais si on ne fait pas ça avec les uns les autres, soit on commence à le faire parce que c'est ce que Dieu veut, ou bien on arrête de dire qu'on aime. Parce que dire qu'on aime mais rien faire, c'est totalement incohérent. Aimer, c'est aussi faire des sacrifices. C'est se donner. Lorsque ça nous coûte, pas simplement lorsque cela arrange. N'importe qui peut donner et faire des sacrifices quand ça l'arrange. Mais c'est lorsque ça dérange, ça nous embête, quand on doit donner de son temps, alors que peut-être on n'en a pas trop. Faire des arrangements dans son emploi du temps. Mais on le fait parce qu'on aime. Cela implique également... pas simplement donner de son temps, mais de ses ressources. Pas simplement le dimanche matin, dans les offrandes, donner la dîme, les offrandes, ça c'est bien, mais
Est-ce que ça se limite à ça? Non, j'en suis pas convaincu. C'est aussi en dehors de l'Église, des différents besoins dont nous pouvons avoir connaissance dans l'Église, mais aussi en dehors, plus loin. Comme Jésus a dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, mais en vérité. Agissons. Alors je reviens à la question. Vous dites à quelqu'un, je suis passé de la mort à la vie par Jésus-Christ. Et cette personne vous dit, ah bon, montrez-le-moi, prouvez-le-moi. Et non pas en mettant une date sur une carte, non pas en disant tel ou tel jour, non mais montrez-le par nos actes, par la prière, par la présence les uns avec les autres, par l'aide aussi que nous apportons les uns aux autres. Cela fait partie de cette transformation radicale que Jésus nous apporte par sa résurrection. Il a fallu que lui, il passe par ça d'abord. Il est le prémisse, les prémices, c'est-à-dire le premier. Donc il nous montre le chemin. C'est lui l'exemple. Et parce que lui, il est passé de la mort à la vie par la résurrection, nous pouvons le faire également. Et si aujourd'hui, nous disons que nous sommes sauvés, est-ce que ça se voit? Certes, par moments, on sera faible. Nous restons des êtres humains. Mais est-ce que le témoignage global, régulier de notre vie, c'est que j'aime mes frères et sœurs? Pas simplement en parole, mais en action, en vérité. Est-ce que le témoignage global de ma vie, c'est que je ne suis pas dans la peur? Je ne suis pas régulièrement dans l'angoisse. Je ne suis pas dans l'incertitude. Si je ne peux pas dire ces choses, je dois humblement me remettre en question devant Dieu. Je dois implorer son aide, je dois tourner les yeux vers Jésus. Et peut-être il s'agira de passer plus de temps dans la parole. Plus de temps dans la prière. Se laisser plus influencer par la parole que par ce monde autour de nous. Et en cette période de Pâques, où nous sommes tellement dans la joie de nous souvenir de la grande victoire de Jésus-Christ sur la mort, et ça c'est tellement formidable, et c'est quelque chose que nous devons annoncer tous les jours de l'année. Mais en même temps, posons-nous la question, où sont les preuves de cette transformation? Où sont les preuves de cette résurrection dans ma vie? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles doivent apparaître de façon plus évidente? Peut-être elles sont totalement absentes, ces preuves. Et ça veut dire que peut-être je ne suis jamais passé de la mort à la vie. Ce serait le jour de régler cela. Ce serait le jour aujourd'hui avec le Seigneur de dire, je m'engage, je vais manifester, je vais prouver, je vais mettre en évidence pour que tout le monde le voit, je suis passé de la mort à la vie. J'ai été ressuscité avec Jésus-Christ et voici comment je le montre. Je suis convaincu que nous avons tous du progrès à faire dans ces différents domaines et sûrement dans d'autres. Mais ce qui est formidable, c'est que par la puissance de Jésus ressuscité, c'est lui qui nous rend capables. Nous n'avons pas besoin de faire cela par nous-mêmes. Ce serait impossible d'ailleurs. Mais avec sa puissance, nous pouvons. Il y a de l'espérance. C'est un combat, certes, mais c'est un combat que nous pouvons, par la puissance de Dieu, remporter largement. Mais il faut demander son aide. Toujours aller vers lui pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Et nous allons le faire particulièrement dans quelques instants par la prière ici, mais c'est quelque chose que vous devez faire, et que moi je devais faire, que je dois faire tous les jours, chaque instant. Seigneur, aide-moi. Alors nous allons passer quelques instants dans la prière silencieuse intérieure, et puis je terminerai. Oui, Seigneur, nous te louons que tu es celui qui a vaincu la mort, tu es celui qui enlève ce salaire du péché que nous méritions. Tu as pris sur toi, tu es mort à notre place et tu es ressuscité afin de nous offrir ce salut éternel, merveilleux. Merci que tu agis encore dans notre vie aujourd'hui. Merci que tu ne nous délaisses pas, tu ne nous laisses pas à nous débattre par nous-mêmes. Mais lorsque nous te demandons, tu nous remplis de ta force, tu nous rends plus que vainqueurs et tu nous permets de manifester, de prouver, afin que tous voient que toi, tu es celui qui nous fortifie et que nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes ressuscités avec toi. Que dans la vie de chacun d'entre nous, il soit de plus en plus évident que tu enlèves tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas, que tu remplaces par ton assurance, par ta paix, par ton amour. Et ainsi, Seigneur, que tu sois exalté et glorifié parce que cela viendra de toi. C'est en ton nom que nous prions. Amen.